Le conseiller régional David Géant est notre invité.
Et demain, c'est la rentrée quasiment du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur avec la réunion de la commission permanente. Bonjour David Géant.
Bonjour Monsieur Malabave.
Avec une nouvelle élection qui s'était profilée en 2015, fin 2015, c'est bien ça?
C'est ça.
Vous êtes donc un jeune conseiller régional. C'est votre deuxième rentrée au niveau de la région. Comment se présente celle-ci?
Un jeune conseiller régional dans tous les sens du terme d'ailleurs. Écoutez, cette rentrée se présente sous les meilleurs auspices. On a appris de bonnes nouvelles au nombre de trois. La première, c'est que la notation financière de la région a été maintenue par les agences de notation avec une perspective stable.
C'est l'agence Fitch qui a maintenu en AA-.
Exactement, je vois que vous êtes bien renseigné. Et avec une perspective stable à long terme, ce qui sous-entend que la gestion du conseil régional est bonne.
C'est un bon signe.
Tout à fait. On a été élu région la mieux gérée de France dans de nombreux magazines également, avec des efforts sur la gestion qui ont été mis en lumière. Et puis on a commandé un sondage Ipsos, dont on a eu les résultats lundi, lors du séminaire de rentrée des élus régionaux, qui nous apprend un petit peu plus sur la vision que les Provençaux peuvent avoir de la région. Et on observe que 64% des Provençaux sont satisfaits de l'action du Conseil régional depuis l'arrivée de la nouvelle majorité. Donc c'est plutôt satisfaisant en cette rentrée. Ça nous incite à continuer à travailler, à rester dans l'humilité, dans la remise en question. Mais c'est plutôt favorable compte tenu du contexte, et on s'en rappelle, dans lequel nous étions arrivés aux manettes de cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur en décembre 2015.
Avec quelques complications quand même. Bon, on va pas parler de l'opposition régionale. Vous savez que je ne le porte pas dans mon cœur. Donc, on va garder la vue sur la majorité républicaine qui gère la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le président Christian Estrosi a démissionné pour laisser sa place à son dauphin Renaud Muselier. Ça a fait un petit peu désordre, mais comment ça se passe maintenant? Est-ce que la succession a été assumée et assurée?
Oui, ça s'est très bien passé, et j'ai tendance à dire qu'il y a de la continuité dans le changement, et c'est plutôt un bon signe, parce qu'on sait que lorsqu'on arrive dans une collectivité, il y a un temps d'adaptation qui est nécessaire, pour les nouveaux élus a fortiori, mais pour tout le monde, sachant notamment que la région a récupéré des compétences en janvier 2017 qu'elle n'avait pas précédemment, de par l'avènement de la loi de nouvelle organisation territoriale de la République. Donc j'ai tendance à penser et à croire que la transition a été réussie, d'abord parce que Christian Estrosi et Renaud Muselier ont toujours travaillé en tandem, main dans la main, donc les orientations stratégiques décidées à l'époque de Christian Estrosi ont été maintenues sous Renaud Muselier. Et puis le président arrive aussi avec un changement de style, avec un rythme différent. On reste dans la même orientation stratégique, mais on change de style. Et il a deux objectifs qui sont très clairs. Le premier, c'est de faire comprendre que la région n'est plus un tiroir-caisse. Il le martèle, et je pourrais m'en expliquer si vous le souhaitez. Et le deuxième point, c'est d'imposer une vision à 20 ans, donc de se projeter à moyen et à long terme, tout en ayant des premiers résultats avant la fin du mandat, c'est-à-dire à 3 ans.
On va développer dans un instant les missions de la région, justement. Tout d'abord, une petite parenthèse. Christian Estrosi, c'est plutôt Nice. Renaud Muselier, c'est plutôt Marseille. Vous êtes plutôt 04. Comment est considéré le département des Alpes-de-Haute-Provence en région?
Je ne vous mentirai pas en disant qu'il ne fait pas partie forcément des priorités stratégiques de la région. Néanmoins, la ruralité, on le sait, a besoin de la région, surtout dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle a besoin aussi du gouvernement, et on pourra parler du désengagement de l'État vis-à-vis des collectivités, qui a un véritable impact, et un impact fort négatif sur notre territoire. Il faut savoir que les départements ruraux, donc je pense au 04, au 05, ont quand même aujourd'hui une chance, c'est que les présidents successifs, que ce soit Christian Estrosi ou que ce soit Renaud Muselier, ont martelé leur volonté d'équité territoriale. Et on a une autre chance, c'est qu'on a des élus qui sont actifs sur le territoire. Je pense à Eliane Bareil, la vice-présidente à la ruralité de la région, donc qui est vraiment imprégnée de ce sujet. Je pense à Chantal Emeyoud, je pense à l'action de Roselyne Gianetti, qui est la locale de l'étape, à la mienne aussi. Et lorsqu'on a des élus qui sont volontaires, qui portent les dossiers, alors on arrive à être considéré à Marseille, mais il faudra jamais s'attendre à avoir les mêmes dotations que des villes métropoles comme Nice ou comme Marseille, ça me semble une évidence. Mais on a quand même cette notion d'équité territoriale qui est respectée à la région.
Vous-même, jeune conseiller régional, vous faites partie de la commission emploi et travail, hein, de l'économie du conseil régional. Vous y sentez bien?
Je m'y sens extrêmement bien. J'ai la chance qu'on m'ait confié le rôle de vice-président de cette commission. Donc, je travaille avec Pierre Grand-Dufay, qui lui est le président de la commission économie-emploi du Conseil régional, qui est un entrepreneur comme moi, qui n'a jamais été élu, comme c'était mon cas aussi. Et donc, on travaille à insuffler ce qu'on peut connaître dans l'entreprise, ce qu'on peut connaître dans le privé, au sein de la collectivité publique. Et donc, c'est très intéressant comme mission. On a développé de nombreux outils, de nombreux cadres d'intervention depuis 18 mois. Et la tâche maintenant qui n'en est pas moins ardue, c'est de faire vivre ces dispositifs et ces outils sur le territoire, sur le long terme, et d'apporter vraiment la valeur ajoutée qu'on veut sur le territoire, c'est-à-dire accompagner les entrepreneurs pour créer de l'emploi, parce que c'est la finalité de la collectivité, mettre un terreau favorable pour la création d'emplois et ensuite faire en sorte qu'il y ait de la création de richesses sur le territoire qui profite à tous.
On va rentrer plus en détail, si vous voulez bien, dans toutes ces aides et de, les soutiens de la région. Vous avez dit la région n'est pas un tiroir-caisse, quoique les communes comme les entreprises, comme les associations ont besoin du soutien de la région, du soutien économique, et vous savez qu'il y a un effet de levier puisque les aides aussi bien des départementales que les aides de l'État ou les aides de l'Europe sont aussi conditionnées par les soutiens de la région. Vous êtes élu depuis 2 ans maintenant, vous avez constaté sur le terrain le besoin des entreprises ou des habitants tout simplement sur les aides de la région.
Un besoin qui est criant et qui a tendance, en tout cas c'est mon ressenti, à s'accentuer sur le territoire. Pour en revenir sur l'expression de Renaud Muselier au niveau de la région n'est pas un tiroir-caisse, vous avez raison, la région est un cofinanceur et un cofinanceur important. Et dire qu'elle n'est plus un tiroir-caisse, ce n'est pas dire qu'on arrête de financer des projets, bien au contraire. Sauf que on avait pris l'habitude aujourd'hui d'avoir des virements automatiques de la région, c'est-à-dire que les collectivités ou les entreprises savaient que sur certains types de dossiers, elles obtenaient de façon quasi systématique, sans forcément aller vers le qualitatif, des subventions de la région. Bien, ça c'est fini. Renaud Muselier souhaite réaffirmer le rôle de la région et donc porter des projets. La région ne sera pas simplement celui qui viendra signer le chèque et qui s'assiera au fond de la salle en regardant ce qui se passe, mais au contraire, elle va insuffler, elle va influer sur les projets pour essayer d'apporter un maximum de valeur ajoutée à nos territoires. Votre question, elle était en lien avec les besoins du territoire. Oui, je constate qu'on a de plus en plus besoin. J'en veux pour preuve la création du Fonds Régional d'Aménagement du Territoire, j'en avais parlé la dernière fois, qui a été mis en place par Éliane Bareil notamment, vice-présidente à la ruralité comme je vous le disais. Ce Fonds Régional d'Aménagement du Territoire, il vise à accompagner les petites communes, nos communes rurales, dans le développement de leurs projets, des projets structurants qui peuvent être de différentes natures. Et on observe une augmentation forte de la demande sur ce Fonds Régional d'Aménagement du Territoire, de telle sorte que nous avons remplacé finalement le FSL qui à l'époque était utilisé sous l'ancienne majorité, qui était programmé pour avoir 3 millions d'euros par an dans la région d'accompagnement aux petites communes. Rien que l'année dernière sur les Alpes-de-Provence, c'est 5 millions, donc juste sur les Alpes-de-Provence, on a déjà doublé le budget qui était régional avant, d'accompagnement aux communes rurales. Donc je crois qu'il y a un vrai besoin, et la région sait répondre présent, malgré les difficultés budgétaires, et ça serait peut-être intéressant qu'on puisse
évoquer. Alors justement, c'est en compensation forcément, fortement et forcément des baisses des dotations de l'État.
Baisse de dotation de l'État qui impacte toutes les collectivités, à commencer par les communes rurales, parce que d'un côté, on a des budgets de fonctionnement qui ont augmenté dans les années précédentes. On limite les dotations, donc on joue pas sur le fonctionnement, mais sur l'investissement, ce qui fait qu'on réduit la capacité d'investissement des petites communes au moment où il y en a le plus besoin. Et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est bien sûr touchée, parce que si on fait le compte, c'est 250 millions d'euros qu'on perd sur 4 ans cumulés. 250 millions d'euros, pour vous donner une idée qui vous permet de comparer, de comprendre ce que ça signifie, c'est le budget du Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence. Donc c'est un budget conséquent. Et on craint que ça se poursuive avec le nouveau gouvernement, puisqu'on nous a annoncé 13 milliards de baisse de dotation, après en avoir subi déjà 25 sous le quinquennat précédent. Et la région, malheureusement, on attend les réponses dans les jours à venir, mais on table aujourd'hui sur une baisse de dotation de 32 millions pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Et vous savez que l'État revient un petit peu sur sa position, devait faire 20 milliards d'économies, n'en prévoit plus que 16, enfin bref. C'est un petit peu la valse dans ce cadre-là. Et de toute manière, c'est le contribuable au départ, qui finance toutes les collectivités, État y compris, et c'est l'argent du contribuable que l'on distribue et que l'on utilise.
Vous avez bien raison, mais ce qui est assez anormal, c'est que ceux qui ont dépensé pendant des années ne soient pas ceux qui doivent rembourser aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait payer l'addition aux collectivités locales, et je ne crois pas que ce soit la commune d'Entrevaux ou de Castellane dans les Alpes-de-Haute-Provence qui ait participé majoritairement à la dette de notre pays.
En même temps, c'est vrai que Renaud Muselier a porté plainte contre François Hollande et sa gestion. On verra jusqu'où ira cette plainte. On verra bien s'il y a une utilité. Revenons sur des questions très concrètes, David Géant. Je sais que vous êtes très intéressé par le déploiement de la fibre optique notamment, et on va saluer tout le travail qui est fait au SMO, un travail qui est en partenariat entre les départements notamment, les opérateurs et bien sûr la région.
Tout à fait, et c'est un sujet, je sais, mon cher François, qui vous intéresse aussi particulièrement, puisque vous êtes spécialement assidu à tous les événements de déploiement, et on vous en remercie. Le sujet de la fibre optique, il est primordial pour notre territoire, parce qu'on subit aujourd'hui deux vitesses, en France de manière générale, et particulièrement sur ce sujet du numérique. On a la France connectée, avec des débits extrêmement importants dans les métropoles, dans les grandes villes, et puis on a une partie du territoire qui est coupée, où il y a des endroits où on ne peut même pas téléphoner seulement aujourd'hui. Donc pour réduire cette fracture numérique, le syndicat mixte ouvert, vous l'avez dit, PACAT HD, qui est piloté par la région, mais qui profite de fonds divers et variés, les départements, c'est le cas du département des Alpes-de-Provence, des fonds européens aussi, et même des fonds gouvernementaux, a pour but de pallier aux opérateurs privés que eux ne viendraient pas investir sur ce territoire puisque la rentabilité est moins intéressante. Donc on continue à déployer sous deux formes, la fibre jusqu'à l'abonné, ce qu'on appelle le FTTH, et les montées en débit en parallèle, qui visent là à augmenter les débits sans amener la fibre optique jusqu'au bout, mais simplement au nœud de raccordement d'abonnés. Donc vous le savez, on commence à déployer dans trois communes le FTTH, donc la fibre à l'abonné, les trois communes pilotes, Sisteron, Villeneuve, où on s'était rencontrés l'année dernière, et Château-Arnoux-Saint-Auban, et on travaille, alors on a pris un petit peu de retard sur les déploiements suivants, c'est souvent le cas dans ce type de travaux, avec 12 communes qui vont venir dans les prochains mois dans les Alpes-de-Provence, et notamment les trois sous-préfectures, donc Castellane, Barcelonnette et Fort-Calquier.
Avec en prévision aussi les ambitions d'Emmanuel Macron, qui a dit que en 2020, la France allait être entièrement connectée au très haut débit. On va le laisser responsable de ces déclarations. Et puis c'est vrai que c'est un dossier majeur pour les entreprises, majeur pour les habitants également. David Géant, vous avez aussi parlé des fonds européens. C'est la région maintenant qui gère les fonds européens pour la région. Comment ça se passe ?
La région est en effet, depuis peu, autorité de gestion des fonds européens. C'est-à-dire qu'ils transitent par l'intermédiaire de la région, et c'est la région qui, alors avec un formalisme européen, bien sûr, et des normes, notamment administratives européennes, est en charge de créer les appels à projets. Parce que vous savez, les fonds européens fonctionnent de la manière suivante. Il y a une enveloppe qui est votée au niveau de la Commission européenne sur 5 ans. Donc là, dans notre cas, c'est de 2015 à 2020. Une enveloppe globale d'environ 1 milliard d'euros pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais elle n'est pas versée directement à la collectivité régionale en charge de le déployer. Il faut aller chercher ces montants au travers de ce qu'on appelle des appels à projets. Et ces appels à projets, la difficulté, c'est que c'est une grosse charge administrative. On appelle ça la lourdeur administrative. Je crois que là, on a atteint le paroxysme de la lourdeur administrative. Et donc, toute la difficulté réside dans l'accompagnement, finalement, que ce soit les petites collectivités qui n'ont pas forcément le personnel en interne pour monter ces projets, que ce soit les entreprises, que ce soit les associations. Donc, la région a pris en compte cette difficulté et on travaille sur trois leviers. Le premier, c'est qu'on a augmenté le nombre de personnels présents à Bruxelles, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En 2015, il y avait qu'une seule personne, aujourd'hui il y en a 7. Donc pour faire le lien entre les appels à projets européens et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a augmenté le nombre de personnes par 7, ce qui est considérable. Le deuxième levier, c'est qu'on a mis une ressource dans chaque maison de la région, donc dans chaque département, il y a une ressource des services de la région qui est en charge de guider les parties prenantes vers ces fonds européens. Et le troisième point, c'est un point qu'on est en train de développer, qui n'est pas encore actif, c'est le fait d'accompagner financièrement les parties prenantes qui souhaiteraient être accompagnées d'un consultant privé pour les aider à monter les dossiers. Et le but, c'est d'aller capter un maximum de fonds européens, parce que malheureusement, en France, on est l'un des pays qui capte le moins de pourcentage de ces enveloppes qui nous sont allouées et attribuées. Et c'est quand même fort dommageable dans le contexte qu'on connaît de baisse budgétaire d'un côté, et surtout à une époque où l'Europe est parfaitement décriée. Donc dire que l'Europe ne sert à rien, et en parallèle, ne rien mettre en œuvre pour que ça serve, c'est un petit peu paradoxal, et c'est pour ça qu'on réagit, parce que vous savez que Renaud Muselier est en plus député européen, donc très intéressé à cette question de l'Europe.
Et c'est lui qui était en charge, sous Christian Estrosi, de gérer justement ces questions-là. Donc on retient que la région est un soutien et une aide en ce qui concerne le montage de projets pour ce qui est de l'Europe. Vous avez parlé des maisons de la région dans le département des Alpes de Provence. Pendant un moment, on a cru que l'antenne de la région était menacée. Qu'en est-il exactement ?
Alors, à l'époque, c'était justement des antennes de la région. Et on s'est rendu compte que ces antennes, c'était finalement des permanences quasi-parlementaires pour les élus. Or, c'est pas le rôle, nous, qu'on a voulu donner à ces antennes. C'est pour ça qu'on est passé d'une antenne à une maison de la région, où il y a maintenant 6 personnels dans le cas de celle de Digne-les-Bains.
Toujours au même endroit, boulevard Gassendi ?
Toujours au même endroit. C'est pas le boulevard Gassendi, c'est derrière. Je ne me rappelle plus du nom de la rue. Mais c'est juste derrière.
Oui, c'est derrière, oui.
Voilà, dans la
Pardonnez-moi, je suis pas dinois.
Dans la continuité du commissariat, vous avez l'antenne de la région qui est très bien indiquée, donc on peut pas se tromper. De toute façon, je crois que c'est la rue Honora, si je me souviens bien. Et donc, il y a du personnel avec des spécificités, donc, sur le développement économique, sur les fonds européens, sur l'éducation. Et ces personnels n'ont pas pour but d'accompagner les élus, mais d'accompagner les demandeurs, ceux qui ont un projet à porter. La porte est ouverte aujourd'hui dans les maisons de la région pour être le relais des régions, en plus de ce que peuvent faire les élus sur le terrain, de l'entité régionale qui, elle, se base, bien sûr, à Marseille.
Donc, on change, mais on garde quand même l'essentiel.
On garde l'essentiel, mais on essaie de le rendre vraiment utile au territoire. Parce que nous, c'est vraiment le but qu'on a, c'est d'apporter de la qualité, apporter de la valeur, qu'elle soit financière, qu'elle soit sociale, qu'elle soit sociétale, qu'elle soit environnementale sur le département. Et donc, on se dit qu'en mettant des ressources qualifiées à disposition, là encore, pour de l'ingénierie, c'est une forme d'ingénierie, on favorise le développement du département.
Merci David Géant d'avoir été mon invité, puis d'avoir parlé de la région avec fougue et passion, comme vous faites régulièrement.
Merci.